Bonjour, messieurs, dames, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de la rétrospective économique sur Radio Okapi. En voici les grandes articulations. Une nouvelle réglementation du change en République démocratique du Congo. Elle consacre le franc congolais, principale monnaie de dénouement de toute transaction commerciale sur tout le territoire national. Elle double le délai de rapatriement des recettes des exportations du diamant et de l'or de production artisanale. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO, demande la suppression purement et simplement de la nouvelle taxe d'embarquement instaurée dans les aéroports au départ de Kinshasa. L'ONG estime que le GoPass que payent les passagers n'est pas bien géré par la RVA et la réponse de la régie des voies aériennes, l'IDF a généré 80 millions en 4 ans, fonds qui ont servi à la construction du pavillon présidentiel Angeli. Vous entendrez l'ADG de la RVA dans un instant dans votre émission. Panorama économique revient également sur le colis de 3 kilos d'or saisi à l'aéroport de Bangboka mercredi à Kisangani, valeur estimée 90 000 dollars américains. Faut-il dire que la fraude se porte bien ou encore les services de sécurité deviennent vigilants? En tout cas, des analyses et commentaires dans cette émission avec Lems Kamonya, il est expert en économie et puis actuel directeur de cabinet adjoint du ministre des Transports et Voies de Communication. Lems est au téléphone. Lems, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour Daniel.
Devant ce micro et dans ce studio, Daniel Tambinsoni, François Kadima pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio.
Panorama économique, le dossier.
Le premier dossier de la semaine nous conduit à la Banque centrale du Congo. La nouvelle réglementation du change en République démocratique du Congo, présentée jeudi au grand public par la Banque centrale, le franc congolais, principale monnaie de change pour toutes les transactions sur le territoire national.
Ce document de la Banque centrale du Congo consacre la primauté du franc congolais sur toute autre monnaie dans les transactions commerciales en RDC. C'est l'une des grandes innovations de la nouvelle réglementation du change présentée hier par la Banque centrale du Congo. Ce nouvel outil remplace l'actuelle réglementation qui date de 2003, jugée inadaptée au regard de la conjoncture actuelle. Sur le plan social, le paiement de tous les frais de soins médicaux, consommation d'électricité, des lots et le paiement du loyer à usage résidentiel doivent désormais se faire exclusivement en francs congolais. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo.
La nouvelle réglementation stipule que les transactions sur le territoire national ne peuvent se dénouer en monnaies étrangères que sur accord exprès des parties, le principe étant le règlement des transactions en monnaie nationale. Ceci souligne la primauté du franc congolais sur le territoire national en tant que monnaie de règlement des transactions. Aussi, la nouvelle réglementation consacre l'exclusivité de paiement en monnaie nationale de tout redevance, impôts, droits et taxes dus à l'État et à ses démembrements, même ceux payés par les sociétés titulaires de droits miniers et les sociétés pétrolières de production. En outre, tout paiement d'une somme en francs congolais ou en monnaie étrangère égale ou supérieure à 10 000 dollars américains ne peut être effectué en espèces, excepté dans les villes ou territoires dépourvus d'établissements bancaires. S'agissant des délais de rapatriement de recettes d'exportation, ils ont été assouplis. La nouvelle réglementation établit ces délais à 60 jours calendaires maximum pour les exportations de biens et services contre 30 jours dans l'ancienne réglementation. En ce qui concerne particulièrement l'exportation du diamant et de l'or de production artisanale, ce délai est maintenant de 20 jours maximum contre 10 jours dans l'ancienne réglementation. Enfin, toutes les dispositions relatives aux sociétés titulaires de droits miniers et les sociétés pétrolières, à l'importation et à l'exportation des billets des banques de monnaies étrangères et aux autres opérations liées notamment à la détention des billets de banques de monnaies étrangères à l'entrée comme à la sortie du territoire national, ont été insérés dans la nouvelle réglementation de manière à avoir un texte unique. Au plan social, la nouvelle réglementation consacre également l'exclusivité de paiement en monnaie nationale entre résidents pour les prestations qui se rapportent aux opérations ayant une incidence sur le vécu quotidien de la population. Il s'agit principalement du loyer de bail d'immeubles à usage résidentiel, de crédits à court terme octroyés aux ménages, des frais de soins de santé et de consommation d'eau et d'électricité à usage domestique.
Voilà, le franc congolais qui est mené au centre de toute transaction commerciale en République démocratique du Congo, l'EMS Kamoya. Vous commentez l'actualité de la semaine avec nous. Quels commentaires vous placez à ce stade?
Oui, moi je pense que la publication de cette nouvelle réglementation s'inscrit dans le cadre du principe lancé par les gouvernements il y a à peine deux ans pour arriver à dédollariser notre économie. Vous savez que dans toutes les économies du monde, la monnaie, c'est un attribut de la souveraineté nationale parce qu'elle doit permettre de dénouer les transactions sur les territoires nationaux parce que la fonction la plus importante de la monnaie, c'est une fonction d'échange. Alors, il est quand même anormal que dans une économie, dans un pays, que vous puissiez recourir à une monnaie étrangère et nous savons comment on en est arrivé là. C'est parce que notre monnaie s'est dépréciée. Maintenant que nous avons le franc congolais qui est relativement stable par rapport aux devises étrangères, il est tout à fait normal que le franc congolais soit utilisé comme monnaie de transaction. Ça nous donne, c'est ça la pratique normale dans les autres pays. Et ce qui est aussi bon, c'est le fait que cette réglementation est assortie d'une batterie de mesures d'accompagnement et d'encadrement qui ont été prises par la Banque centrale et les gouvernements. C'est pour éviter les dérapages et pour éviter qu'il y ait certains abus. Et aussi, ce qu'il faut aussi souligner, c'est-à-dire que le montant d'échange elle n'est pas complètement fermé. On laisse quand même une ouverture. Là où il y a l'accord express des parties, certaines transactions peuvent se dérouler en monnaie étrangère, sachant que, comme nous connaissons que notre économie, elle est fortement tributaire des importations et des exportations des biens et services. Donc, il y a certaines transactions pour être dénouées. Il faut à tout prix les traiter en monnaie étrangère.
Et lorsque la réglementation accorde 20 jours pour les rapatriements des recettes des exportations de l'or et du diamant artisanal, vous ne pensez pas que c'est encore donné le temps aux opérateurs de jouer sur les chiffres avant de les ramener?
Non, bon, je ne pense pas. Je crois que si on a accordé ces longs délais, il prend en compte les pratiques. Hein, parce que lorsque vous exportez, c'est vrai, le temps que les instructions soient données par les banques, même en matière commerciale, lorsqu'on dit que le paiement il est au comptant, cela signifie qu'il doit se réaliser dans les 8 jours qui suivent la transaction. Donc il faut prendre en compte ces délais. Il faut aussi prendre en compte le fait que c'est des paiements internationaux. Parfois, il y a des banques qui passent par 2 ou 3 correspondants avant que l'argent ne puisse rentrer. Et la crainte qu'on pouvait avoir, c'est lorsqu'au départ, à l'exportation, au moment où on remplit les licences d'exportation, que les valeurs soient minorées, pour que les montants qui rentrent ne soient pas celui-là. Mais si on prend déjà beaucoup de sécurité avant l'exportation au niveau de licence et c'est rassuré que tous les documents qui doivent accompagner le rapatriement renseignent que la transaction s'est réalisée comme il se doit, je crois qu'il y a un moyen de contourner et d'éviter cette crainte.
Merci. Deuxième dossier de la semaine, la taxe statistique d'embarquement dans les avions que doivent désormais payer les passagers de vols nationaux et internationaux suscite des réactions.
Et c'est l'Association africaine des défenseurs des droits de l'homme Azado qui a fait entendre sa voix cette semaine. L'ONG s'insurge contre cette nouvelle taxe et souhaite sa suppression. L'Azado estime également que la taxe GoPass, à laquelle s'ajoute celle d'embarquement, n'est toujours pas géré de manière transparente par la régie des voies aériennes. En réponse à ce propos de l'Azado, Abdallah Bilenge, l'ADG de la RVA, donne un éclaircissement au micro de Rose Pifer Nyafoura et Innocent Olinga.
Nous brassons 400 000 passagers par an. Si tu multiplies par 50, tu es autour de 20. Ce qui te donne une moyenne, parce que le diplomate ne paye pas, la MONUSCO ne paye pas, et vous avez à peu près 18 millions. 18 millions pendant 4 ans. Vous êtes autour de 80 millions. Autour de 80 millions perçus depuis 4 ans. Nous avons commencé le premier chantier, la réhabilitation de la piste d'Engili. Vous êtes au coût de ce marché chinois d'autour de 60 millions de dollars. C'est un prêt d'une banque, remboursé par l'IDEF. vous êtes à 60 millions de dollars. Mais vous restez 20 millions de recettes sur les 4 ans. Quand vous passez à l'aéroport d'Ngili, vous voyez des infrastructures. Il y a un bloc technique, il y a une centrale électrique, il y a une caserne anti-incendie qui est en train de se construire également. Et le même travaux se font également à Lubumbashi. Et nous allons lancer des travaux pour Kisangani. L'autre, il y a aussi, c'est Kamina. C'est tout le pays. On est en train de réaliser aujourd'hui les regards de Mbandaka, de Kananga. Et les mois de juin, nous allons réhabiliter Gemena, Isiro et Kalemi. C'est national. Le gouvernement a sollicité l'intervention de la Banque africaine de développement qui intervient en concurrence d'à peu près 80% de financement. Et les 20% sont apportés par l'IDEF.
Une nouvelle taxe d'embarquement au départ des vols nationaux et internationaux, l'EMSCAMONIA. Vous qui prenez presque toutes les semaines un avion pour vous déplacer, vous sortez du pays, vous revenez, vous ne trouvez pas que c'est des taxes de trop d'impôts, tu l'impôt, comme vous, spécialiste de l'économie, vous dites?
Oui, non, je pense qu'il y a une certaine juxtaposition qu'on semble faire observer ici. Mais je vais expliquer le fait que aujourd'hui il y a un problème dans notre pays avec la constitution de 2005 plutôt, la constitution actuelle, où on a créé les gouvernements provinciaux, où il y a les entités provinciales qui doivent avoir des ressources propres. Mmh. Et quand vous voyez les décrets, l'ordonnance qui avait été publiée sur la nomenclature des taxes à l'initiative des provinces, il y a cette taxe-là d'embarquement. C'est ainsi que les provinces sont montées au créneau pour dire elles ont aussi besoin de ressources pour fonctionner. Comme il y a cette taxe, il faudrait qu'ils l'appliquent pour permettre à ce qu'elles aient aussi des moyens, notamment aussi d'entretenir les aéroports qui sont situés à l'intérieur des provinces, parce que parfois les gouvernements provinciaux interviennent. Ce sont eux qui étaient à la manœuvre et on a considéré le fait, comme il y avait déjà l'IDEF, l'IDEF c'était une taxe de développement et qui était perçue à l'occasion de l'embarquement, on a considéré que ça pouvait faire double emploi, mais on a dit qu'il faut séparer les deux. Ça, c'est une taxe qui existait même dans l'ancienne loi où on pouvait percevoir cela. Bon, maintenant, les problèmes qui se posent, la ZADO dit qu'il n'y a pas une réalité, il n'y a pas une transparence dans la gestion.
Dans la gestion, justement.
Dans la gestion.
Oui.
Je crois que la charge de la preuve, l'ADG, vous avez suivi l'ADG de la RVA qui a expliqué.
Ben ça, c'est l'ADG qui le dit.
Il faut qu'on explique aux gens,
oui,
les montants qui est collecté mensuellement, annuellement, c'est 20 millions, les coûts des infrastructures à construire, il est tellement élevé. Je vous donne un exemple banal. Mais puisque les travaux qui se font au niveau de l'aéroport de Benjili, donc l'arrangement de la piste, des taxiways et des raquettes et tout ça, ça vous coûte 65 millions de dollars qu'on a cofinancé avec une partie des fonds qui sont venus d'Exim Bank. Vous vous rendez compte, si vous devez construire les financements apportés par la BAD dans le cadre du projet Priorité de Sécurité Aérienne, PPCA, la BAD a apporté 150 millions de dollars pour construire 3 tours de contrôle, 3 casernes anti-incendie. Ils vont se faire en Gili. Et si on demande au gouvernement 20% de contrepartie, ça fait 30 millions de dollars. Là, il faut attendre une année et demie. Donc, les coûts des infrastructures à construire est tellement élevé, mais l'impôt qui est demandé, il est faible parce que nous avons un faible niveau de trafic voyageur. On ne fait pas plus d'un million de passagers par an. Donc, ce qui fait que si vous appliquez ce montant-là fois 20, c'est rien par rapport au coût des aéroports.
Mais
il faut quand même qu'on mette de l'ordre pour éviter que les Congolais, les petits Congolais ne souffrent trop en payant d'une part l'IDEF et d'autre part en payant encore ces taxes.
Mm-hmm.
C'est une question autour de laquelle on est en train de réfléchir comment harmoniser ça et aussi pour créer le confort du passager. Parce que si vous êtes à l'aéroport, vous devez courir d'un guichet à un autre pour payer tout ça.
Justement, cette question de guichet unique, il doit être partout de sorte que alléger le système.
Alléger le système et faciliter le confort du passager au voyage.
Et nous allons vous garder pour prendre ce dernier dossier de la semaine, le groupe de travail de l'initiative du secteur privé pour la lutte contre la corruption s'active dans la promotion de la bonne gouvernance.
Cette structure a organisé mercredi à Kinshasa une matinée éthique sur les codes de bonne conduite dans les affaires pour les entreprises privées en RDC. Il était question au cours de cette séance de sensibiliser les responsables des entreprises privées à privilégier les bonnes valeurs dans la gestion pour lutter efficacement contre la corruption. Le vice-président du groupe de travail de l'initiative des secteurs privés pour la lutte contre la corruption, Clément Ilunga, le dit au micro de Radio Capi.
Nous avons constaté à la suite du forum national de la lutte anticorruption qui a été organisé en 2009, premier forum, que le secteur public s'est organisé à travers l'OCEP en mettant en place certaines institutions pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Il était normal que le secteur privé aussi puisse s'organiser, puisque dans les entreprises privées en général, nous avons tous des codes de bonne conduite, mais il fallait mettre en place un code commun que veut nous permettre de nous rapprocher ou de l'opposer à nos amis du secteur public. C'est comme ça qu'on a mis en place cette initiative et qui a donné naissance à un code de bonne conduite commun que nous partageons avec toutes les autres entreprises. Donc il est bon que nous puissions sensibiliser les entreprises qui évoluent au Congo à respecter certaines valeurs.
Voilà, il faut lutter contre la corruption et la RDC est sur ce chemin, mais ça traîne encore, l'EMS Kamoya.
Oui, oui. Disons, c'est vrai que ça traîne encore parce que la corruption, c'est un phénomène qui gangrène notre société et qui n'a pas commencé aujourd'hui et qui avait tendance à s'enraciner. Aujourd'hui, il faut vraiment démanteler ces systèmes et pour les démanteler, les actions sont à plusieurs niveaux. Nous saluons cette initiative de mettre en place les codes de bonne, les codes de bonne conduite et les codes éthiques. Et aussi, il y a des actions qui sont menées au niveau du gouvernement, par exemple, au niveau de l'argent public. Aujourd'hui, vous avez les principes comme la loi sur les marchés publics. C'est des choses, c'est des lois qui sont là pour qu'il y ait la transparence, la rationalité dans la consommation des fonds de l'État. Vous avez aujourd'hui la mise en place de la chaîne de la dépense pour qu'on ait une traçabilité. Vous avez, aujourd'hui, on insiste davantage de plus en plus sur la reddition des comptes. Donc, il y a autant de mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour éviter qu'il y ait la corruption. Mmh. Au niveau de la Banque centrale, on a même créé une cellule de lutte contre le blanchiment d'argent. Voilà. Donc c'est la cellule de renseignement financier. Tout ça, ce sont autant de mécanismes qui se mettent en place pour qu'on arrive à voir dans quelle mesure arriver à lutter contre la corruption. Par exemple, en Europe aujourd'hui, vous ne pouvez pas justifier un montant important qui tombe sur votre compte sans savoir quelle est l'origine. Voilà. Ça vient d'où. Je crois qu'avec ça, les corrupteurs, soit ils vont transformer leur maison en banque ou en caisse d'épargne, et aussi, ça va être difficile que les gens y arrivent. Donc, il faut qu'on aille aussi bien sur les fonds réglementaires des réformes et que sur les fonds aussi de la conscientisation avec des telles causes. C'est vraiment une initiative qu'il faut saluer.
Une question me vient à l'esprit, l'EMS. Vous voyez, à quel niveau doit s'appliquer la mise en place de ce code de bonne conduite? Parce que je prends un exemple banal. Un agent recouvreur de la régie des eaux ou de la SNEL qui passe dans une famille qui doit, parce que cette famille n'a pas honoré sa facture de consommation, qui doit en principe couper l'alimentation, commence à négocier. Il dit, tu me donnes 3 bières, tu me donnes 5 bières, je laisse la connexion. Ou s'il n'y en a pas, si tu n'as pas... Est-ce que cette sensibilisation ne peut pas descendre jusqu'à ce niveau-là? J'ai pris comme ça, mais ce sont des choses qui se pratiquent.
Jusqu'au niveau le plus bas possible, parce que celui qui fait ça, vous privez la régie des eaux d'avoir ses ressources, ça tend. Et demain, on va boire l'eau de mauvaise qualité, et c'est nos enfants qui tombent malades, on va dépenser l'argent dans les pharmacies. C'est vraiment un cercle vicieux. Je crois qu'il faut mettre en place toute une campagne de sensibilisation, une campagne d'éducation pour que les gens considèrent la corruption comme un fléau qui ronge, qui ne nous avantage pas, qui nous avilisse même nous-mêmes en tant qu'humains lorsqu'on est corrompu.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres infos de la semaine en plus bref, nous vous le disions lundi, le gouvernement provincial de Kinshasa est depuis le mois de février doté d'un budget pour l'exercice 2014. Ce budget se chiffre à plus de 44 milliards de francs congolais, mais comment mobiliser les ressources nécessaires, notamment les taxes et impôts du ressort de la ville? Cette question a été au centre d'un atelier organisé et clôturé le week-end dernier par le ministre provincial en charge des finances et économie, avec le financement du programme d'appui au démarrage de la décentralisation, le PADD, une structure de l'Union européenne. Un contrat de performance de la mobilisation des recettes urbaines a sanctionné la fin des travaux et attend être signé par les deux parties, c'est-à-dire les régies financières de la ville et le pouvoir provincial de Kinshasa.
Pendant ce temps, Matadi, toujours lundi, les décideurs du Bas-Congo ont participé à un séminaire de formation sur l'initiative de nouvelles nouvelle procédure de passation de marché public. Des assises de 3 jours ont été organisées par le gouvernement provincial en collaboration avec l'autorité de régulation de marché public ARMP et l'appui également financé de la Banque mondiale. Selon le commissaire provincial du plan, Simon Bosso Kimputu, les marchés publics représentent 60% de la dépense publique. Donc pour avoir une bonne qualité de la dépense, il faut avoir une bonne organisation du système de passation de marché.
Et nous terminons cette série par les élections syndicales dans les entreprises de l'État. L'heure est à la campagne maintenant à la SNEL, tandis qu'à la Congolaise de Voie Maritime, les élections syndicales ont déjà eu lieu, mêmement à la Régie des Eaux, où le syndicat national des travailleurs de la Régie des Eaux s'est taillé la part du lion. 18 directions obtenues sur les 22 mises à compétition. Le secrétaire général du Sénatrel reconduit pour un nouveau mandat nous en parle.
Le syndicat national du travail de la Régie des Eaux a concouru aux élections sociales 2013-2016 avec 60 autres syndicats, mais à la fin des élections qui ont eu lieu hier 22 mai, les sénatrels viennent d'obtenir en termes de représentation sur les 22 directions opérationnelles de la Régie des Eaux, 18 délégués principaux, c'est-à-dire les provinces et les 12 directions de Kinshasa. Donc 18 sur 22. Donc c'est vraiment une victoire écrasante. Nous avons présenté aux travailleurs un bilan de 5 ans. Nous avons présenté aux travailleurs les enjeux de ce mandat. Et nous avons présenté aux travailleurs les perspectives d'avenir. C'est ce qui a convaincu les travailleurs parce que nous avons été du côté de la vérité.
S'il ne faut plus revenir sur le bilan, on peut dire un mot sur les enjeux de nouveau mandat et les perspectives d'avenir pour l'avenir des travailleurs à la Régie des Eaux, puisque en RDC, on est en train de se rendre compte que le syndicat ne joue plus son rôle, il roule plutôt pour l'employeur. Est-ce que c'est ça le cas avec le Sénatreg?
Bien, comme vous savez, les enjeux de ce mandat, nous résumons les enjeux par la continuité de la réforme, donc du redressement de la Régie des Eaux. Et dans le cadre de ce redressement, il est prévu au mois d'août la révision de la convention collective. Et dans le cadre de la réforme, nous avons une crainte sur les risques de démembrement de la Régie des Eaux avec des contrats qui sont signés de part et d'autre sans associer les travailleurs. Et pour les perspectives d'avenir, le plus grand enjeu pour nous, c'est la protection de notre protocole d'accord gagnant-gagnant que nous avons signé le 21 décembre avec l'employeur de la Régie des Eaux, où nous demandons déjà pour ces mandats que nous mettons sous le signe de la paix. Les mandats passés, il y a eu beaucoup d'agitation avec la réforme, avec beaucoup de problèmes. Nous voulons que ce mandat soit mis sous le signe de la paix. Nous demandons à l'employeur, dans ce cadre de ce protocole d'accord, de respecter ses engagements en tenant compte des réalisés du mois de mars que nous, Parti syndical, nous détenons déjà. Et nous demandons également aux travailleurs, en parachevant le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, qui a répondu à la déclaration de l'intersyndicat du Congo le 1er mai 2014, que les travailleurs congolais n'est pas différent des chômeurs. Le professeur Bahat a répondu, les salaires est tributaire de la production, soit de la richesse. Donc nous demandons aux travailleurs de créer de la richesse. En tenant compte de notre protocole d'accord gagnant-gagnant, nous allons trouver aussi notre compte. Donc nous commencerons d'abord à dire merci à tous les travailleurs de la Régie des Eaux. Les Sénatrex, c'est un patrimoine commun qui ne doit pas être vendu. Un patrimoine commun qui appartient à tous les travailleurs de la Régie des Eaux. Protéger ce patrimoine commun, c'est protéger leur carrière.
Panorama économique, matière première.
Direction Kisangani en province orientale. Un colis d'or de près de 3 kilos a été présenté mercredi à la presse. Il avait été saisi le dimanche dernier à l'aéroport de Bamboka par le service spécialisé. D'un poids brut de 3225 grammes, ce colis était sur le point de quitter frauduleusement Kisangani pour Kinshasa lorsqu'il a été détecté. Anselme Massoua nous en dit plus.
Aussitôt saisi par le comité provincial de lutte contre la fraude minière, le colis présenté hier mercredi à la presse a été transféré au ministère provincial des mines pour une enquête. Celle-ci a porté sur le lieu de sa provenance et la verbalisation de leur détenteur. La fraude étant approuvée, le colis saisi est passé le mardi dernier à la fonderie et son poids net est fixé à 2,979 kg. Pour le moment, déclare le ministre provincial des ressources naturelles, les processus sont en cours pour la vente de ces colis évalués à 90 000 dollars américains. Le produit de ces colis, poursuit la même source, sera versé au trésor public après déduction des frais dus aux différents services des mines. Et conformément à la loi minière, affirme Paulin Odiane, les propriétaires de ces colis d'or paieront une amende variant entre 2 et 10 000 dollars américains. Kisangani, Anselme Massoua, Écho d'économie.
Bon week-end à toi, Anselme Massoua, depuis Kisangani. Voilà, l'EMS, nous vous retrouvons pour placer un petit commentaire après cette série. 3 kilos d'or qui étaient sur le point de quitter frauduleusement Kisangani pour Kinshasa. La contrebande se comporte aussi merveilleusement bien. Si 3 kilos sont saisis, bon, qui sait combien est frauduleusement passé avant?
Exactement, je crois que vous l'avez dit si bien. La contrebande minière, elle se porte très bien parce que ce sont des anciennes pratiques. Mais ce qui est aussi mieux, c'est qu'au niveau du ministère des Mines, on a déjà mis en place une commission qui s'occupe de la lutte contre cette contrebande minière qui fonctionne et dont les résultats sont ceux-là que vous montrez. Je crois qu'on arrête à Kisangani, on arrête à Ndjili. Et malgré ça, ces gens ne s'arrêtent
pas. Ils se fatiguent
pas. Je crois qu'il faut encore intensifier les actions parce que l'or et les diamants, ce sont des substances qui se prête facilement à la fraude. On peut le mettre dans un sac, on peut le mettre dans une poche. Alors, il faut vraiment multiplier et renforcer les mesures pour lutter contre cette contrebande afin d'éviter que d'importantes recettes échappent à l'économie et même au trésor public.
Panorama économique, reportage.
Relocalisés depuis mardi de la semaine passée à Maluku, les expulsés de Brazzaville recourent à certaines activités pour survivre. Si les uns n'ont rien à faire et ne jurent plus que par le retour dans leur milieu d'origine, a constaté notre reporter, d'autres par contre se lancent dans des petites activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. C'est là d'autant plus que depuis leur arrivée sur les lieux jusqu'à vendredi, ils n'avaient toujours pas été nourris. Jacques-Yves Moulima était dans ce camp des expulsés. Suivez son reportage.
Mais entre tout le stade,
s'il faut comparer entre le stade et ici, je pense que là au moins nous mangeons. Ici on ne mange pas, on a faim. En plus, nous n'avons pas d'argent.
Eh bien oui, les expulsés sont à bout de force. Ils ne reçoivent rien jusque-là comme nourriture. Pourtant, parmi eux, il y a des familles nombreuses. C'est le cas de cette femme et son mari.
Nous sommes au total 9, nous avons 7 enfants.
Mais comment nourrir tout ce monde? C'est l'équation résolue chaque matin. Mais cette femme qui entend encore le rapatriement vers son milieu d'origine a trouvé une solution.
J'ai mon petit restaurant de fortune pour aider mes frères les expulsés. C'est le même métier que je faisais à Brazzaville. Ici également, je ne pouvais pas rester sans rien faire.
Avec un petit 500 francs congolais, on peut se procurer un morceau de poisson chinchard pour calmer sa faim. Mais la quantité n'est toujours pas suffisante pour tous les expulsés à Maluku. Par ailleurs, pour cette autre femme qui risque de mettre longtemps dans ce site, n'ayant pas d'endroit où aller, se commettre l'aide à survivre.
Je n'ai pas d'endroit où aller, toute ma famille est en Angola. De mon retour après avoir passé 10 ans à Brazzaville, j'ai trouvé que la parcelle a été vendue. J'ai 6 enfants, je ne sais où aller, voilà pourquoi je me débrouille pour nourrir mes enfants.
La débrouillardise semble être l'unique voie de survie pour beaucoup dans ces cas des explicités de Maluku.
Voilà, et c'est par là que nous allons terminer Panorama économique, mais nous laissons le temps à notre invité de placer un mot sur ce retour massif de Congolais de Kinshasa qui sont expulsés de Brazzaville. Ça fait un poids aussi, un poids social, mais qui aura certainement des impacts sur l'économie. À voir tout ce que le gouvernement est déjà en train de mettre à leur disposition, c'est déjà ce qui n'était pas prévu.
Oui, ça c'est vraiment, c'est non seulement un véritable drame social, c'est même un drame économique, parce que si les gens doivent se réorganiser, le gouvernement doit décaisser, ça change autant de priorités qui pouvaient permettre d'améliorer les conditions sociales et économiques même de ceux qui étaient déjà ici. Je pense que c'est vraiment une situation difficile et nous devons être de cœur avec nos frères qui sont venus de Congo-Brazza et aussi au niveau du gouvernement et de toutes les structures. On sait que les efforts sont faits, mais ils doivent être assistés pour éviter que ça se termine trop mal. Voilà.
Merci beaucoup, Lems Kamonya, et c'est ainsi que nous terminons Panorama économique de cette semaine. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous aussi, chers auditeurs qui avez pris votre temps à nous écouter. Jean-Claude Siala était à la prise de son, et devant ce micro, Daniel Tambinzoni et François Kadima vous disent au revoir.
Au revoir, on se retrouve le week-end prochain, samedi prochain. Mm-hmm. Déjà lundi, nous avons rendez-vous avec Écho d'économie chaque 18h15 sur Radio Okapi.
Retrouvez Panorama économique sur www.radiookapi.net toute la semaine. Et très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir.